c'est Ludique. 9h30, 10h, la seule émission quotidienne qui te parle de jeux à la radio.
Et bonjour à tous, bienvenue dans C'est Ludique, les amis. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir l'Espagne et cette magnifique ville de Barcelone avec le jeu Barcelona. On retrouvera aussi en fin d'émission Jonathan du magasin Terre de Jeux à Rennes pour nous parler des différentes sorties et des news de cette semaine. Et pour commencer, c'est Théo Rivière qu'on retrouve pour son coup de cœur. Bonjour Théo.
Salut Mathieu, comment vas-tu?
Ça va bien et toi?
Ça va, encore dans des conditions extrêmes de discussion puisque je suis dans le métro parisien.
D'accord, et ça capte. Et ça capte pour l'instant, donc c'est plutôt une bonne nouvelle.
Je croise les doigts.
Tu vas nous parler de ton coup de cœur et on va parler de Challengers, mais pas de Challengers 1, de Challengers 2 qui ne s'appelle pas finalement Challengers 2. Hein.
Ouais, le nom a changé au dernier moment, je pense, de peur que les personnes voulant acheter le jeu pensent que c'était une suite directe et qu'il fallait posséder Challengers 1 pour pouvoir l'acheter.
C'est ça.
Donc ça s'appelle Challengers Beach Cup, un nom fort bien trouvé puisque le jeu va se dérouler cette fois-ci sur une plage, même si, encore une fois, on va en parler, mais Challengers, c'est pas le jeu le plus thématique du monde. Et cette deuxième boîte ne dérange pas à la règle puisqu'elle est tout aussi foutraque avec, là encore, des personnages qui viennent de plein d'univers différents, toujours avec plein de couleurs. L'illustrateur a changé, cette fois-ci c'est Olivier Fanière qui est français, qu'on connaît assez bien sur le marché français, il a fait pas mal de jeux, qui nous propose un univers là encore avec plein de couleurs, plein de personnages très différents, et encore une fois un thème dont on se fiche un petit peu quand on joue, si ce n'est que ce côté foutraque va bien avec le game design.
Ouais, et alors du coup est-ce qu'il y a une grosse différence entre le 1 et le Beach Cup?
Au final, pas tant que ça. Il y a la plus grande différence, c'est que les joueurs et les joueuses vont commencer avec un objet de départ qu'on va pouvoir choisir parmi deux quand on joue à 8 et qui va teinter un peu notre stratégie. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas spécialement apprécié Challengers, peut-être parce que les débuts de partie peuvent être des fois un peu frustrants. On ne sait pas trop dans quelle direction on a envie d'aller, on ne sait pas trop quelle carte prendre.
Ouais.
Bah là, on a un objet qui va nous aider un peu et qui va teinter un petit peu notre partie.
D'accord.
Mais la grosse différence, c'est que toutes les cartes différentes cette fois-ci, avec des nouvelles familles, une famille qui est multicolore et qui correspond à toutes les couleurs différentes, et puis plein d'effets un tout petit peu différents. Et donc vraiment, c'est là où on va retrouver un nouveau plaisir, c'est dans ce renouvellement ici, là où au-delà de ça, le système de jeu, lui, est assez peu changé.
Ouais, le système a peu changé, on est toujours sur un système de bataille. Hein.
Ouais, tout à fait, avec cette idée que je trouve vraiment brillante, et Challengers a vraiment changé pas mal de choses dans le paysage ludique, puisque des jeux à la Challengers, on va en voir pas mal, je pense, dans ces 5 prochaines années, tant ça a marqué pas mal de game designers, je pense.
Ouais.
Mais avec cette idée d'auto-battleur, emprunté aux jeux vidéo, on peut penser à Hearthstone Battlegrounds, entre autres, où on va tout d'abord sélectionner des cartes, avec un système très simple. On va regarder 5 cartes d'une famille, on va en choisir 2 parmi cette famille, parfois une, en allant au fur et à mesure de la partie chercher des cartes de plus en plus fortes. Et ensuite, on va affronter un autre joueur ou joueuse. Et cet affrontement va se passer presque sans nous. On va dérouler notre paquet de cartes, on va les révéler au fur et à mesure. Alors évidemment, les cartes vont nous permettre d'avoir des petits effets qui vont ouvrir pas mal de petits choix.
Ouais.
Mais à ce niveau-là, on est effectivement un peu dans un truc emprunté à la bataille. On va simplement révéler nos cartes et puis regarder un peu ce qui se passe. Qui a eu les meilleures cartes, qui a eu la chance de les avoir dans le meilleur ordre. Et puis, qui va gagner cette petite bagarre qu'on va faire entre deux personnes.
Ouais, c'est ça. Et est-ce que, par rapport à la première version, est-ce qu'il est un petit peu plus compliqué?
Écoute, j'ai pas trouvé. Après, j'ai beaucoup joué à la première version, donc j'étais pas perturbé. Si ce n'est que, fondamentalement, ce petit objet de départ va rajouter un pouvoir à appréhender chez soi et chez les autres à chaque manche. Mais au-delà de ça, j'ai trouvé que les cartes restaient assez simples dans leurs effets, assez faciles à comprendre.
D'accord.
Peut-être un tout petit peu, mais il y a encore de la place pour un challenger plus complexe, c'est sûr.
D'accord, ok. Et est-ce qu'on peut mélanger les deux jeux?
Ah, ça, c'est le truc suprême. Alors, j'ai pas eu l'occasion de le faire. J'ai joué ce week-end à 8 pour ma première partie, ce qui est déjà,
c'est déjà pas mal.
Vraiment exceptionnel. mais Challengers 2 offre ce mode qu'ils appellent « Grand Tournoi » qui permet de jouer jusqu'à 16 en mélangeant Challengers 1 et Challengers 2. Donc, pas eu l'occasion d'expérimenter d'ores et déjà, mais c'est certain que c'est dans ma bucket list de cette année ludique que j'ai envie de faire un challenger à 16.
À 16, voilà. Et est-ce qu'il y a du coup, alors si on mélange les deux jeux, du coup, il y a peut-être un petit inconvénient, tu m'as parlé des objets. Du coup, certains n'auraient pas d'objet de départ alors?
Non, ils ont été hyper malins sur ça et malines puisque la boîte arrive avec 16 objets de départ.
Ah,
et 16 petits, il y a des doubles protège-cartes pour les partager. Donc quand on joue jusqu'à 8 uniquement avec Challengers 1, bon, on va avoir un choix parmi deux, ce qui ouvre là encore un peu de stratégie. Et quand on joue jusqu'à 16, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais à mon avis, on en prend un au hasard, et puis tant pis, on n'a pas de choix, mais ça reste sympa, quoi.
Excellent, excellent. Eh ben super, donc Challengers Beach Cup, ça vient tout juste de sortir. Merci beaucoup Théo.
Je t'en prie Mathieu, à très bientôt.
Et à la semaine prochaine. Salut.
Passe une bonne journée.
En famille ou avec des amis, c'est ludique, c'est l'heure de jouer.
Ah, Barcelone est certainement l'une des plus belles villes d'Espagne et d'Europe. Alors quand je vois un jeu dont le titre est Barcelona, j'ai forcément envie d'en parler. Dans Barcelona, un jeu de Dani Garcia édité par Board & Dice et Pizzi Games, vous allez incarner des bâtisseurs, ceux du Barcelone du 19e siècle. Vous êtes chargé de reconstruire la ville selon les plans de Cerdà, un architecte considéré comme l'un des pionniers du modernisme. Vous allez construire des routes, des habitations, refaire les trottoirs, et même participer à la construction de la Sagrada Familia, un monument qui est toujours en travaux. D'ailleurs, je ne sais pas si on le verra achevé un jour. Dans Barcelona, un jeu initié, il faudra équilibrer les envies de Cerdà et les souhaits des habitants, notamment les plus riches. On a un grand plateau représentant les rues de Barcelone et des emplacements pour les bâtiments, la piste citoyen et la piste Cerdà. Chaque joueur a aussi un plateau personnel et nous avons aussi un autre plateau. Il faut un petit peu de place sur la table pour jouer à Barcelona. Mais alors, comment on joue? Eh bien, vous commencez votre tour avec deux jetons citoyens. Il y en a trois types, les ouvriers, la classe moyenne et les riches. Ceux-ci sont tirés au hasard dans un sac, vous les placerez en pile sur une intersection de la carte. Chaque rue sur la carte est associée à une action et vous pouvez effectuer les actions de toutes les rues qui se rejoignent à l'intersection que vous avez choisie. Vous effectuez les actions dans l'ordre que vous souhaitez. Il y a 11 actions dans le jeu. Alors voici quelques exemples. On peut construire des routes, on peut déplacer le tram, placer un pavé sur le trottoir, gagner du tissu, de l'argent, prendre des tuiles modernisme. À chaque fois, eh bien, ça vous donne des bonus ou des points, mais je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Sachez que toutes ces choses vont améliorer votre scoring. Alors après avoir effectué vos actions, vous devez construire des logements, si vous en êtes capable. Alors pour ce faire, vous devrez avoir des citoyens aux intersections adjacentes à un terrain touchant celui dans lequel vous avez placé vos citoyens au début de votre tour. Il existe 4 types de bâtiments qui peuvent être construits. Chacun avec ses propres exigences et récompenses. Un bâtiment de base nécessite 2 citoyens de tout type. Le bâtiment du niveau le plus élevé nécessite 3 citoyens, dont 1 doit appartenir à la classe des riches. Les bâtiments du bas vous récompensent aussi pour avoir suivi la vision de Cerdà. Les bâtiments de haut niveau vous pénalisent si vous avez allé à l'encontre de la vision, mais vous donnent des points bonus pour compenser. Il faut donc bien équilibrer tout ça. Chaque citoyen utilisé pour construire un bâtiment est ajouté à une piste de recensement dans la ligne qui correspond à son type. La piste de recensement est divisée en 3 sections de notation. Alors une fois qu'une ligne est remplie, jusqu'à la fin de la section, vous aurez un tour de notation où tout le monde marquera des points en fonction d'une tuile de score choisie au début. Une fois que les 3 seuils de notation sont atteints, le jeu se termine et on fait un scoring global. Ce gagné en cours de jeu, mais aussi d'autres points que je vous laisserai découvrir. Le joueur avec le plus de points gagne. Pour résumer, à chaque tour, vous placez 2 citoyens, on construit un bâtiment, on vérifie si un scoring Cerdà se déclenche, puis on enlève 2 citoyens du sac. Sans compter toutes les actions bonus de votre plateau. Dans Barcelona, c'est pas évident de planifier à l'avance ces actions. Il faut souvent attendre son tour, car depuis que vous avez joué lors de votre tour précédent, le plateau a beaucoup changé. La ville de Barcelone s'est étoffée. Il faut souvent faire de nouvelles stratégies et elles seront différentes à chaque partie car il y a énormément de choses à faire. Dernière chose, faites attention à comment vous placez les citoyens car ils peuvent servir aux autres. Enfin, celui en dessous plutôt. Un jeu où la réflexion sera très importante. Voilà, Barcelona, c'est sorti chez Pizzi Games.
Des jeux, des hits, c'est ludique. C'est ludique, 9h30, 10h.
C'est la dernière ligne droite avant Noël et les magasins de jeux se remplissent, n'est-ce pas Jonathan ?
Tout à fait Mathieu, ouais. On est pas mal occupé.
Salut Jonathan. Alors, on va parler donc des différentes sorties. Donc, il faut faire un peu de place, non, avec tous ces jeux qui arrivent ?
Ah ouais, on sait plus où donner de la place pour toutes les nouveautés qui arrivent. Là c'est la période, bon, on trouve, on se débrouille. Après c'est le temps de jouer à tout ça aussi qui est pas forcément évident.
Je te comprends. Alors tu nous as fait une petite sélection des sorties de ces dernières semaines.
Ouais, j'ai fait un petit tour dans le rayon des nouveautés pour essayer de piocher quelques trucs qui personnellement m'ont marqué ou pas mal plu. Ouais. Alors ça doit être les jeux de ces dernières semaines.
Alors, je pensais commencer par un jeu vraiment marquant, là, cette fin d'année, vous en avez sûrement entendu parler, un jeu de Luc Raymond, c'est Sky Team.
Oui.
Alors, c'est peut-être un des jeux auxquels moi j'ai le plus joué ces dernières semaines. Mm. Alors, comme d'hab, c'est un jeu coopératif,
Oui.
là, spécialement conçu pour deux joueurs, alors avec un thème qui peut changer un petit peu de ce qu'on a l'habitude dans le jeu de société, hein. Là, il n'y aura pas d'elfes et de trolls avec des haches et de la magie. Ce coup-ci, on va devoir faire atterrir des avions. Alors voilà, c'est un jeu assez angoissant, hein. Moi j'ai peur de l'avion, donc ce jeu ne me rassure pas beaucoup parce que parfois on peut se cracher et ne pas réussir à atterrir son avion. Donc c'est un jeu coopératif, alors le matériel déjà assez chouette, on va avoir un tableau de bord entre les deux joueurs, hein, qui représente le tableau de bord de notre avion, avec pas mal de paramètres, et il va falloir préparer tout pour l'atterrissage, donc la vitesse, l'inclinaison de l'avion, il faut ouvrir, voilà, je me souviens plus des noms, comment ça s'appelle, mais voilà, faut préparer les freins, etc. Faut tout mettre en place pour que au bout du 7e tour, on ait réussi à faire atterrir l'avion.
Et on ne se parle pas, bien sûr.
Et voilà, c'est le truc très chouette du jeu, c'est que à chaque manche, il n'y a pas de communication entre les deux joueurs. On va vraiment essayer de se mettre dans la tête de l'autre, dire bah si je fais ça, est-ce qu'il va réussir à me suivre, parce que la plupart des actions se font en deux temps. Il y a un joueur qui va devoir donc poser l'un de ses dés, hein, au début de manche, on va poser, lancer ses dés derrière son paravent, chacun son tour jouer un dé, et souvent c'est le dé d'un joueur plus le dé de l'autre joueur qui va créer la réaction, la vitesse, l'inclinaison de l'avion, etc. Donc on se met vraiment dans la tête de l'autre, qu'est-ce qu'il attend de moi, est-ce qu'il va me bloquer à tel endroit. Donc c'est très chouette comme sensation coopérative. Alors il y aura quand même un petit peu de discussion, parce qu'entre chaque manche,
on a le droit de planifier,
donc ça c'est plaisant aussi de se dire là on met en place une petite stratégie, ce serait bien de pas trop avancer, parce qu'il y a pas mal de trafic aérien, ou peut-être là on en profite, c'est dégagé, on fonce, l'inclinaison de l'avion elle est pas terrible, il faudrait que tu redresses de ton côté. Donc c'est très mécanique, mais en même temps on est plongé dans le thème, on s'y croit bien en train de diriger cet avion. C'est vraiment une réussite pour moi, Sky Team de Luc Raymond. Et non content de ça, en plus vous allez avoir plein de petites extensions.
Ouais, c'est ça, il y a plein de surprises à l'intérieur.
Ouais, il y a une vingtaine de scénarios différents avec une difficulté progressive. Moi, ça m'a fait limite penser à ces casse-têtes de logique de la marque Smart Games ou Simfunk, où on va voir de plus en plus de paramètres à prendre en compte, une difficulté croissante, mais vraiment bien dosée. Moi, je trouve ça assez parfait comme jeu coopératif pour cette fin d'année.
On va avoir la jauge de kérosène. Enfin, il y a plein de choses qui vont se rajouter.
Donc, ouais, ça crée des ambiances assez différentes. Ouais. C'est très chouette.
Donc, et puis, c'est pas un jeu non plus très compliqué dans le sens où on n'est pas sur Flight Simulator. Hein. On n'a pas besoin de savoir piloter un avion pour jouer à Sky Team. Hein. C'est important.
Oui, effectivement, c'est parce que la thématique peut faire penser que le jeu est très complexe, mais non, ils ont réussi à faire quelque chose d'assez digeste, assez simple à prendre en main, et quand même réussir à créer pas mal de thèmes, donc ça, moi, je trouve que c'est une prouesse, hein, de réussir à faire un truc thématiquement fort, mais avec peu de règles. Ils ont vraiment bien géré ça. Autre jeu, carrément, je voulais vous parler peut-être d'un jeu qui est, je pense, passer un peu plus inaperçu. Moi, petit coup de cœur personnel, il s'agit de Wormholes de Peter MacPherson.
Ah mais oui.
Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est l'auteur des Petites Bourgades, donc jeu qui a connu un certain succès. Alors Wormholes, on va se balader à travers la galaxie. On est sur ce qu'on appelle, alors short des gros mots, hein, je parle en anglais, un pick-up and delivery. C'est-à-dire que vous allez avoir des cartes en main qui représentent des planètes. Il faut que vous emmenez votre vaisseau sur ces planètes pour pouvoir jouer ces cartes et marquer des points. Donc c'est très simple, on a un plateau avec plein de cases et plein de planètes. Et à votre tour, vous pouvez vous déplacer de trois cases. Là, vous déplacez une case, d'une deuxième, d'une troisième, en espérant atteindre mes objectifs. Alors ça, on pourrait dire c'est vachement ennuyeux du coup, hein, de se déplacer de trois cases comme ça, puis ça passe au joueur suivant. C'est très mou du genou. Mais la subtilité du jeu, c'est qu'on va pouvoir créer des trous de verre. Ouais. Donc à mon tour, je vais pouvoir déposer un petit jeton, un petit trou de verre à côté de mon vaisseau. Ces petits trous de verre fonctionnent par binôme. Il y a deux jetons de valeur 1, deux jetons de valeur 2, etc., etc. Et quand j'ai posé deux jetons de même valeur, et ben ils sont reliés à travers la galaxie. Donc je vais peut-être pouvoir me déplacer dizaines de cases comme ça en utilisant mes trous de verre. Vous allez pouvoir en poser plein. Donc optimisez vos parcours, essayez de les planifier. Et en plus, ça s'arrête pas là. Vous allez pouvoir utiliser ceux des autres joueurs en leur faisant gagner des points de victoire. Donc là, après, ça part dans tous les sens. Vous avez vraiment la possibilité. Ouais. Est-ce que j'utilise ça pour me déplacer de 5 cases, ou alors je peux enchaîner avec tel trou de verre. Et du coup, ça crée des réactions en chaîne qui sont très plaisantes. En plus, le plateau va avoir quelques petits effets. Il y a des planètes qui ont des effets bonus de me propulser dans une direction. Donc, comment, avec des règles simples comme ça, essayer de planifier tout ça pour optimiser ses déplacements. J'ai trouvé ça super efficace.
Ouais.
Alors, une vraie sensation de jeu à l'allemande, hein, les règles simples, mais tu peux cogiter à ton tour. Wormhole, super efficace aussi.
Donc, et pas un jeu coopératif, ce qui est assez rare avec toi, Jonathan.
Mais oui, alors j'en fais quand même, hein, pour le travail des jeux compétitifs. Bon, j'y prends du plaisir quand même.
T'en as encore ?
Allez, j'en ai prévu encore deux, mais je passe sur un jeu coopératif, du coup, ça me fera du bien.
Ouais, d'accord. Ça.
Et un jeu pour enfants.
Okay.
Alors, c'est un deuxième jeu d'une gamme. Alors, moi, je connaissais, mais j'avais pas plus que joué. Je pense que j'étais passé un peu à côté de ce titre. Il s'agit de Kid Chronicles.
Ah bah oui.
Ça, c'est la prophétie du vieux Shen qui vient de sortir de David. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce, si sur elle.
C'est excellent, ça.
Ouais, bah vraiment, j'ai été bluffé. Je pense que c'est assez rare, moi, je trouve, que ce soit dans le jeu de société et même dans la littérature enfance, d'avoir des œuvres comme ça. Donc, on est sur un jeu coopératif. Je pense qu'on peut dire que c'est de l'enquête policière, hein, dans la mécanique. Hein.
Essayer
de comprendre ce qui se passe et de résoudre tout ça avec une sensation d'aventure assez prononcée.
On est sur donc, un Chronicle of Crime pour les enfants.
Voilà, c'est ça, voilà. Chronicles of Crime pour les enfants. Avec un côté aventure très fort.
Oui.
Donc là, on va se balader dans une forêt mystérieuse, discuter avec des personnages. Pour ceux qui connaissent, il va y avoir une sensation de point and click. Hein. Chaque personnage, on peut lui parler d'un objet, voir ce qu'il nous dit, essayer de progresser comme ça. On débloque des objets, on débloque des lieux, on rencontre de nouveaux personnages tout au long de l'aventure. Alors, il va y avoir un petit aspect, je ne sais pas comment ça s'appelle, de VR, il me semble.
Oui, c'est
on
ça.
Va pouvoir,
tu vas scanner des QR codes et donc tu vas être immergé dans le lieu.
Ouais, immergé dans le lieu via un panorama que tu peux consulter en
c'est
te déplaçant
ça.
Comme ça autour de toi, un peu dans la pièce. Alors ça, moi, mon loulou, il en pouvait plus de sa vie, hein, de regarder ça et d'observer tous les petits détails visuels pour essayer bah, justement de retrouver où sont cachés les personnages, où sont cachés les lieux.
Personnages, les lieux, ouais.
Discuter avec eux. Et c'est vraiment bah, la sensation d'aventure qui est très très forte. Il y a tout, hein. il y a de l'enquête, de l'action, de l'émotion, il y a tout ce qu'il faut dans ces Kids Chronicles. Et je voulais dire autre chose sur ce jeu, et je ne sais plus.
En tout cas,
j'ai eu la critique la plus incroyable pour un jeu de société enfant. Hein. Du coup, mon fils m'a dit que c'était le meilleur jeu enfant de tous les temps devant le jeu de cartes Pokémon.
Ah oui, d'accord. Bah, moi aussi, il adore ce jeu-là. On a déjà fini l'aventure, malheureusement. Mais c'est vrai que bah, par rapport au premier, parce que donc on avait fait le premier, je le trouve meilleur celui-là parce que le premier on avait un grand plateau où on allait de lieu en lieu, sauf que là tu construis finalement ton plateau avec les différentes tuiles quoi, et je trouve
ouais.
Beaucoup plus intéressant encore que le premier.
Bah, ils ont rajouté cette petite dimension d'exploration qui
ouais.
est moins présente dans le premier, effectivement. Je trouve, par contre, ça rajoute une petite difficulté. J'aurais tendance, moi, en magasin, plutôt à conseiller le premier pour
ah
découvrir
ouais. peut-être
et de faire
découvrir.
Le deuxième ensuite.
Ouais.
Il y a un petit système d'orientation qui peut être un peu perturbant pour les plus jeunes s'ils veulent jouer en autonomie. Et là, la petite idée qui est pas grand-chose dans ces deux Kids Chronicles aussi que j'ai trouvé très maline, qui fait surtout plaisir, je pense, aux enfants, il y a ce qu'on appelle un peu du metagame, une sorte de jeu à travers le jeu.
Oui.
Dans le premier, on va devoir collecter des pierres magiques
ouais.
Que vous gardez de partie en partie. Mécaniquement, ça n'apporte rien, mais thématiquement, c'est assez fort. Et dans le deuxième, on retrouve aussi cet aspect de collecter des objets magiques qu'on va ranger dans un endroit particulier de notre boîte.
C'est ça.
Pour pouvoir les montrer aux copains, à maman, à tonton, etc. Donc ça, c'était une très très bonne idée.
Et à la fin, donc, tu vas avoir besoin de ces pierres magiques pour faire des choses, quoi. Mais je ne vais pas en dire plus, bien sûr.
À la fin, il y a la révélation de pourquoi tu as collecté tous ces éléments.
Exactement.
Hein. C'est très chouette.
Voilà, non, c'est vraiment top. On va en parler hein, plus en détail avec Anne-Gaëlle mercredi, justement, de Kids Chronicle.
Ah, super.
Il nous reste 2 minutes, Jonathan, un peu moins de 2 minutes même. Est-ce que tu as un dernier jeu en speed?
Allez, le jeu où j'ai beaucoup joué, auquel j'ai beaucoup joué ce week-end, c'était Planet Unknown.
Ouais, bah on fera une spéciale
de Ryan Lambert et Adam Reberg. Alors, c'est pas très novateur comme jeu. Bon, c'est très classique, c'est que des choses qu'on a déjà vues, qui sont un peu dans l'air du temps. Mais c'est très plaisant. Vous allez devoir terraformer une planète. Je sais pas pourquoi ça me parle. J'ai l'impression d'avoir joué à un jeu déjà où il fallait terraformer une planète. Là, il y en a plusieurs dans la boîte. Et c'est beaucoup ce qu'on appelle des polyominos, à l'instar de Tetris. Hein. À chaque tour, on va choisir un polyomino parmi deux, le poser sur notre planète. Donc, on essaye à la fois de faire son puzzle. Et chaque polyomino représente deux couleurs qui font donc deux effets. Hein, ça nous fait grimper sur des jauges qui nous déclenchent des bonus. Ça peut faire penser un petit peu à très futé. Hein, il va y avoir des petites réactions en chaîne. Là où c'est plaisant, c'est sur les caractéristiques techniques. On est sur un jeu qui va jouer 2 à 6 joueurs en 3 quarts d'heure, 1 heure.
En même temps,
c'est du jeu en simultané. Mmh. Voilà, tout le monde joue en même temps.
Avec le système de la planète station spatiale là au milieu où tu choisis
Voilà, il y a une sorte de plateau de fromage tournant au centre de la table dans lequel sont rangés les polyominos. Et donc, à votre tour, vous faites tourner le plateau jusqu'à ce que des pièces intéressantes arrivent devant vous et chaque joueur doit prendre une des pièces devant lui. Donc ça c'est malin parce qu'on va choisir aussi ce qu'on veut et peut-être un petit peu taquiner les autres joueurs en leur mettant des choses assez catastrophiques pour leur planète.
Merci beaucoup Jonathan, on va en reparler, on va en faire une spéciale sur Planet Unknown bien entendu. Merci, on se retrouve jeudi Jonathan.
Super, on se retrouve jeudi carrément.
Très bonne journée, salut.